beaucoup. Donc après tout ce que tu as dit, je suis un peu gêné parce que forcément décevoir. Très sérieusement, je ne perds pas de vue que j'ai été praticien de l'orientation pendant très longtemps et que j'ai passé une partie de mon été à accompagner une équipe d'une plateforme téléphonique dans le cadre du Spéro d'une région. Et voir comment il est difficile aujourd'hui de répondre en 10 minutes aux questions que pose quelqu'un sur le champ de l'orientation, ça repose la question de qu'est-ce que c'est que notre métier alors. Je vais essayer en assez peu de temps de répondre à plusieurs questions tout en essayant de réintégrer toutes les questions et les observations de la salle, de ce que j'ai pu observer ce matin et écouter, et puis aussi relayer un petit peu ce qui a été dit dans la table ronde. Alors je vais essayer, je les avais un peu prévus à l'avance quand même, de répondre à quelques questions. Il y en a 6 en tout. Hein. Quelle évolution sociétale? Quels impacts sur l'accès aux ressources? Quelles questions sur la qualité des sources d'information? Parce qu'il y a eu de grandes questions sur les sources d'information, et quand je vois par exemple les collègues qui me disent il y a des bonnes informations, des informations qui ne sont pas bonnes, je me dis tout de suite, qui est-ce qui décide qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, et est-ce que ça veut dire quoi une bonne information aujourd'hui? La quatrième chose, c'est de nouveaux usages qui modifient la conception du service. Je reviendrai beaucoup sur cette question-là, c'est-à-dire qu'au fond, repenser le service, ça ne veut pas dire déqualifier le service, ça veut dire repenser la contribution du professionnel dans quelque chose qui est d'un niveau de complexité invraisemblable aujourd'hui pour chacun. Hein, si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous savez très bien que les questions d'orientation se posent de 7 à 77 ans, comme portateur, et qu'aujourd'hui on voit bien qu'on est un peu démuni en tant que professionnel en face à face par rapport à ces questions-là. Je reviendrai, parce que ça a été l'objet d'un atelier et ça a été beaucoup soulevé par Nicolas, sur la question des impacts sur le professionnalisme et sur la question de la posture, en sachant que la question qui va se poser, c'est bien, et j'aime le poser comme ça avec les décideurs, quelle est la responsabilité du professionnel? En gros, il engage sa responsabilité sur quoi? Clairement, historiquement, dans les métiers du conseil, on avait une responsabilité sur le fond. À partir du moment où on dit la responsabilité, elle est du côté de l'usager, du coup, quelle est la responsabilité du professionnel? Alors, est-ce qu'il est responsable des moyens? Est-ce qu'il est responsable de la qualité des moyens? Ou est-ce qu'il est responsable de la pertinence des ressources et des moyens qu'il a mis à disposition? Non pas avant, mais pendant. Et vous allez voir que la question de prédéterminer le service dans la construction d'outils et de méthodes et le mettre en œuvre en situation avec une personne, c'est absolument pas la même question. Du coup, dans la question d'ubérisation, pour moi, c'est la seule issue possible. À partir du moment où, effectivement, on considère qu'on est capable de fabriquer des algorithmes qui vont remplacer le professionnel avec un prototype d'usager auquel on pourra produire une réponse qui, à 90%, sera satisfaisante, le métier disparaîtra. À partir du moment où on considère que ce qui est en jeu, c'est la relation intersubjective qu'on va pouvoir nouer avec quelqu'un au regard de la situation de sa propre vie, alors là, la question va se poser tout à fait différemment. Et si un des points sur lesquels je voudrais insister, c'est-à-dire qu'au fond, le risque qu'on pressent d'une déqualification de nos métiers remplacés finalement par les robots, parce qu'il y a à la fois l'ubérisation et il y a la robotisation, parce que la fabrication d'algorithmes aujourd'hui est sans fin, est-ce que vous pouvez imaginer simplement qu'aujourd'hui Google est parfaitement capable, à partir des stratégies de requête de vos adolescents pendant 3 ans, de définir quel profil d'orientation pourrait leur proposer? Il est capable de le faire. Pour leur proposer des objets de consommation, il sera très facilement, dans quelques mois, dans quelques années, capable de proposer des scénarios d'orientation gratuits, simplement parce qu'il est capable de collecter, de traiter, de trier et d'interpréter des données avec une faible part de risque, puisque dans les approches probabilistes, on fait des progrès absolument tous les jours. Donc je reviendrai sur ces questions centrales qui sont au fond, c'est quoi notre job? Et si on n'arrive pas à définir ce qu'on fait, les gens diront ce qu'on ne fait pas. Et vous verrez que la question de l'évaluation devient un enjeu central aujourd'hui, alors même qu'on ne veut pas s'y coller. C'est-à-dire que si au fond, on est en clair sur la nature du service courant, il y a des chances que, d'une certaine façon, on puisse créditer de la confiance du côté de l'utilisateur, mais qui va sans doute nous solliciter d'une façon très différente de la manière dont il l'a fait jusqu'à présent. C'est un des points sur lesquels j'insisterai beaucoup. Alors, puisque tu as parlé premier point pour moi, c'est vraiment un point de société, c'est-à-dire, mais vous l'avez très bien dit, je pense que la question aujourd'hui...
Juste un tout petit peu technique. Mais vraiment sur le menton, parce que c'est audible, mais juste pour ceux du fond. Or, c'est bigrement intéressant.
Non, il faut que je parle comme ça. C'est mon côté marseillais, maintenant, j'ai du mal à parler comme ça. Donc, la question de l'évolution de la société, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je regardais la dernière publicité, j'étais à l'aéroport hier, Colissimo, je ne devrais pas le dire, m'a fait une publicité actuellement qui est tout à fait étonnante, qui dit vous pouvez changer d'avis comme de chemise. Cette publicité est très révélatrice de la question dont on va penser le rapport au futur. Et recevoir très vite un objet et pouvoir en changer immédiatement devient une nouvelle norme sociale et une norme de consommation. Il faut bien que vous ayez en tête que la question de pouvoir changer devient centrale dans les processus d'engagement et de décision. Or, tous nos systèmes dans le champ de l'orientation sont fondés sur la prédétermination et la validation des projets dans une logique purement chronologique, qui est le contraire de tout ce que les stratégies de marketing vont utiliser jusqu'à présent. Ce qui veut dire que si on ne passe pas d'une logique chronologique à une logique itérative, on perdra systématiquement le public qui va vouloir naviguer de façon beaucoup moins chronologique, beaucoup plus erratique, beaucoup plus finalement intuitive, ce qui correspond aux enfants quand ils sont sur une tablette, et qui vont passer du coq à l'âne. Alors que nous, parents, de ma génération, on va dire, ben, fais qu'une seule chose à la fois. Non. Les nouvelles stratégies cognitives sont essentiellement des stratégies de dispersion. Ce qui veut dire que faire plusieurs choses en même temps correspond aux stratégies cognitives de la plupart des utilisateurs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut porter un jugement a priori sur c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas du tout la question. C'est plutôt qu'au fond, c'est un fait qu'on observe et qu'à partir du moment où il intègre les pratiques sociales, on n'y échappera pas. Donc ça veut dire qu'on est dans une ère où la société va jouer sur l'immédiateté, de plus en plus vite, facilité d'accès, virtualisation, mais surtout service autoconsommé. C'est-à-dire ce qui est très important. Je suis aujourd'hui, après avoir été COP, chef d'entreprise, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable d'auto-déclarer, d'auto-payer, de faire plein de choses auto, on ne nous enverra plus jamais de déclaration papier. Nous devons, en tant que citoyens, avoir la responsabilité d'auto-faire un certain nombre de choses, l'État mettant à notre disposition des outils qui nous en facilitent l'usage. Tous les plans de la ville sont concernés par cette question-là. Inscription aujourd'hui dans les écoles, etc. On voit bien que cette fracture, elle peut avoir lieu à ce moment-là. Donc il y a un risque d'ubérisation, évidemment. Et je suis content que Nicolas en ait parlé. Ça ne veut pas dire qu'on est dans quelque chose qui est... ça va disparaître. C'est simplement que naturellement, potentiellement, des businessmen vont très bien comprendre qu'il y a aujourd'hui 10 millions de personnes chaque année qui sont intéressées par les questions d'orientation. Est-ce qu'aujourd'hui le service public est en mesure de rendre un service de qualité approfondi avec un entretien individuel pour chacun, pour toutes ces personnes-là? Je vous pose la question parce que dans la mise en œuvre du CEP, sans moyens financiers supplémentaires, se posera clairement la question de la capacité des services à produire une relation pertinente et de qualité compte tenu de la complexité des situations sociales. Ce qui pose très clairement la question des changements des modèles de service et très clairement la question du transfert de responsabilité. Ce qui pose au fond derrière tout ça la question des modèles économiques organisant le service d'orientation et pose le problème, vous verrez, j'y reviendrai pour terminer, sur la question de la justice sociale. Au fond, si le service public est difficilement accessible pour les gens qui n'ont pas tous les codes et toutes les clés, se pose clairement la question, est-ce que le numérique, et c'est un peu provoque ce que je dis, n'est pas une possibilité de faciliter les processus d'inclusion? D'où de multiples travaux sur toute la planète sur les problématiques qu'on va appeler l'inclusion. C'est l'idée qu'au fond, contrairement à une idée assez généralement partagée qu'on est confronté à la rupture numérique, et votre exemple me semble tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien que peut-être c'est nos croyances, qu'on peut parfaitement mal maîtriser l'écrit et la lecture et aller systématiquement sur un smartphone. Alors pour quels usages? Et là vous avez tout à fait raison, c'est la question des usages qui va être l'enjeu. Or, là aussi, tous les travaux qu'on mène nous amènent à la même chose. À partir du moment où il y a une utilité singulière perçue, les gens rentreront dans l'outil. Et ça veut dire que la question qui va être centrale, c'est est-ce que les gens perçoivent que ce qu'on leur propose est attractif, est utile? Il est vrai que la question du numérique, elle va nous renvoyer très très vite à cette question tout à fait redoutable. Au fond, si je rentre dans un CIO, et que, alors je parle en tant qu'ancien couple, et il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire évidemment, ça veut dire qu'au fond, l'individu va spontanément demander un rendez-vous avec un conseiller. Et les collègues vont dire, bah, de toute façon, on répond à cette demande-là, puisque c'est la demande formulée par la personne. Mais est-ce qu'il a imaginé qu'on pouvait lui proposer quelque chose d'autre? Donc le fait qu'il nous demande systématiquement ça ne veut absolument pas dire qu'il ne se saisirait pas d'une offre de service différente si on lui la proposait différemment. Ce qui nous pose un problème politique et social considérable, c'est qu'à partir du moment où nous définissons nous-mêmes les besoins de l'utilisateur, sans l'avoir sollicité dans la construction de l'offre, et sans avoir testé notre propre offre de service, il y a des chances qu'on soit convaincu que toutes les personnes souhaitent, a priori, un entretien individuel avec un conseiller dans un bureau fermé. Je pourrais vous montrer par de multiples expériences que nous avons menées que c'est absolument pas vrai. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas la demande majoritaire des personnes, c'est simplement la demande formulée comme la seule solution perçue pour avoir une réponse personnalisée. Alors, je suis prudent dans mes propos, c'est vraiment l'idée de la personnalisation qui va être au centre de tout ça. Est-ce que les personnes ont le sentiment qu'on pourra leur rendre un service personnalisé ? Et donc, ils vont faire l'inférence que c'est par l'entretien individuel. Est-ce qu'on peut personnaliser autrement ? Ma réponse est oui. Et on a eu plein de réponses où la réponse est oui, sauf que ça nous réinterroge sur le fait qu'on a fait un lien de cause à effet entre entretien, qui est une modalité, face à face, qui du coup nous renvoie à l'idée de l'individualisation, et avec l'idée de la personnalisation. Est-ce qu'on peut personnaliser par le numérique ? Mais bien sûr, par de milliards de façons, sans forcément qu'on ait des entretiens très nombreux et très réguliers. Alors, qu'est-ce qui a changé sur la question de l'accès aux ressources ? Et j'ai fait un petit tableau pour aller très très vite, pour que vous compreniez bien. Et c'est un peu, en gros, on passe d'une société du stock à une société du flux. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près dit l'essentiel. C'est-à-dire que ce qui va se jouer clairement pour la personne, c'est la question de hier et avant, c'est-à-dire le côté du stock de l'information. Alors, c'était très intéressant dans les groupes dans lesquels j'ai participé, avec l'idée de est-ce qu'on numérise tout ? Est-ce qu'il reste encore du papier ? Est-ce que effectivement on garde de la ressource ? Bon, en fait, de quelle ressource on parle ? Est-ce qu'on parle de ce qui circule, c'est-à-dire ce qui est du flux, qui est jetable, etc. Ou est-ce qu'on parle de choses qui sont pérennes, structurantes, dont on va pouvoir servir des études aujourd'hui ? Je vous donne un exemple, vous relisez le rapport Schwartz en 1982, il a 30 ans, il est d'une actualité redoutable. On pourrait considérer qu'il est obsolète parce qu'il est vieux, pas du tout. Vous pouvez lire les lettres de Lucilius 50 ans après Jésus-Christ, elles sont d'une actualité redoutable aussi. Donc la question de l'actualisation, c'est pas du tout la même que celle de la pertinence. Sauf qu'il y a des données qui sont jetables et il y a des données qui sont finalement des stocks. Et dès qu'on n'est pas au clair sur la question des données, on voit bien qu'on a des débats qui servent à rien. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette ? C'est bien la question de qu'est-ce qui va structurer les ressources d'information. Une deuxième chose qui est importante, parce que, dans ce que j'ai entendu aussi, peut-être qu'on peut les confondre, il y a des ressources qui sont des ressources informatives. Et il y a des choses qui relèvent de processus d'accompagnement autoconsommé, qui ne renvoie pas du tout à la même question. C'est-à-dire que dans un cas, je cherche à agrandir mon niveau de connaissance pour pouvoir m'en servir dans ma stratégie. Dans l'autre, je mène un travail de réflexion individuelle qui me permet, moi, d'avancer, de cheminer tout seul par rapport à la conduite de mon évolution professionnelle. Ce qui veut dire, et là aussi, pour bien connaître la PEC et pour avoir échangé là-dessus avec Nicolas, on voit bien que, finalement, une des surprises, une surprise, je ne sais pas si c'est une surprise, on l'avait intuitivement, c'est qu'au fond, l'individu, il ne veut pas uniquement choisir le contenu du service. Il veut choisir trois choses. Il veut choisir la modalité, il veut choisir le contenu, et il veut choisir ce que j'appelle, moi, le niveau de profondeur. Et ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, aujourd'hui, et pour faire depuis longtemps un travail en mission locale, elles ne souhaitent pas spécialement avoir des entretiens individuels régulièrement dans le bureau du conseiller. D'ailleurs, ils viennent au rendez-vous, entre les rendez-vous. Étonnant, ça. Donc, c'est que les jeunes, ils sont jeunes et qu'ils ne viennent pas au rendez-vous. Non, c'est que le fait d'institutionnaliser un rendez-vous dans lequel la personne va être en face à face va produire quelque chose dans la relation de travail qui institutionnalisera la relation et qui, d'une certaine façon, peut empêcher des choses qui pourraient se faire dans un autre cadre. Et on est très étonné aujourd'hui pour travailler sur des expérimentations avec les missions locales où des collègues, par exemple, font des petits groupes dans des lieux différents. Et en fait, il se produit des choses tout à fait différentes simplement parce qu'on a modifié cette relation instituée. Donc la question, par exemple, de la modalité, la question du contenu et la question du niveau de profondeur est un enjeu sur lequel l'usager, quel qu'il soit, quel que soit son âge, a envie d'intervenir. Et vous êtes usager. Vous faites exactement la même chose avant d'aller voir le médecin ou le spécialiste, vous allez éventuellement aller sur Internet, voir vos symptômes, et de la même manière, quand vous voulez partir en voyage, vous n'allez pas forcément chercher un catalogue, mais vous allez à la fois fureter sur Internet, aller sur des forums, etc. Donc, vous faire votre propre point de vue pour voir à quel moment vous aurez besoin d'un coup de main d'un professionnel. Et j'aime bien cette idée qu'à un moment donné, vous pouvez déterminer d'avoir besoin d'un coup de main. Alors que historiquement, il y avait un clivage très clair. À partir du moment où vous aviez une question sur les problématiques d'orientation, il y avait un professionnel ou il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ce clivage, il est terminé. C'est-à-dire que de toute façon, les questions d'orientation sont 24 heures sur 24 dans la question des familles. On en parle au repas, on en parle pendant les vacances, on en parle sur les forums, on en parle sur les pages Facebook, tout le monde en parle. Ce qui veut dire qu'au fond, cette préoccupation est permanente et une des questions de l'individu, finalement, c'est à quel moment j'ai besoin de regard professionnel pour m'aider par rapport à ça. Et quand des gens nous disent finalement il y a une menace sur les professionnels, pour moi il n'y a absolument pas une menace sur les professionnels. Par contre, leurs responsabilités, leurs fonctions, leurs modalités d'intervention vont changer, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais qui d'une certaine façon va enrichir notre activité de travail et va nous obliger à développer des gestes professionnels d'un grand niveau de complexité. Mener un entretien téléphonique de 12 minutes avec quelqu'un qui vous dit 2 minutes, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Dans ma situation, c'est pas rien. C'est-à-dire quand finalement on dit, du coup il y a le chargé d'information, puis après il y a le conseiller, puis après la personne qui va faire l'accompagnement, on voit très très vite dans une situation observée au quotidien que le geste professionnel le plus difficile, c'est ce moment de la rencontre où la personne vient finalement dans un cadre finalement relativement large et indéterminé dans lequel elle va pouvoir simplement livrer le questionnement tel qu'il est, d'une façon relativement brute. Et on voit très très vite que dans ce moment-là, quand la personne dit par exemple « Écoutez, j'ai entendu parler de formation, qu'est-ce que vous financez ?» Et là, vous faites juste une petite analyse des propositions que fait le conseiller. Vous avez un projet ? Vous voyez à peu près ce que ça peut produire. Vous avez déjà une idée ? Puis, troisième position, c'est quoi votre situation aujourd'hui ? Puis une quatrième qui serait « Aujourd'hui, vos priorités, c'est quoi ?» Donc là, je suis dans des micro-gestes professionnels qui vont définir la posture de façon considérable et qui vont organiser le service de façon tout à fait différente. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, quoi qu'on pense, alors que le numérique nous invite sur des problématiques idéologiques très très vite, hein, des problématiques sociétales, on est invité en tant que citoyen sur ces questions-là. Évidemment, ça veut dire que d'une certaine façon, elle nous oblige à penser notre rôle professionnel parce que l'usager est nécessairement partie prenante de ces questions. Alors, dans ce que j'ai entendu, par exemple, sur la question de la qualité des informations, et là aussi, je vais aller relativement vite, mais pour moi, c'est un message fort. C'est-à-dire qu'au fond, la loi de 2008, par exemple, sur l'accès au droit à l'orientation, pour moi, a fait une erreur majeure en disant on crée un droit à l'information, à une information objective, complète. Le simple fait qu'on ait l'idée qu'on puisse fournir de l'information complète à l'ensemble des citoyens et que cette information soit uniquement objective, c'est absolument pas voir la réalité du monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous faut qualifier la nature des informations sur lesquelles on est et les qualifier sur un certain nombre de critères. Ce qui veut dire que dans un premier temps, il faut avoir une petite idée sur la nature des informations dont on parle. Et voilà, je ne sais pas si vous avez la diapo, voilà, c'est très simple. Ça veut dire que ça, c'est un travail qu'on a fait avec un CARIF, l'espace compétences, sur la question de, avant de dire finalement comment on qualifie l'information, sur quels critères, est-ce qu'on pourrait s'accorder ensemble sur de quoi on parle ? De quoi on parle ? Et en fait, on distingue assez vite. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec les usagers, c'est-à-dire qu'on a qualifié l'ensemble de leurs questions et on a essayé de voir c'était quoi ce qu'ils nous demandaient. Et au fond, on a fait une distinction très simple entre trois natures de questions. Ce qu'on appelle des informations objectives et officielles. Je vais prendre un exemple très simple. CPF, au hasard. Oui, ça fait rien. Voilà, tout le monde, tous les CARIF, tout le monde a fait son petit flyer sur le site du ministère, tout le monde fait le CPF, etc. Donc on dit que c'est le CPF. Vous voyez très très vite que quand vous voulez fournir de l'information officielle sur le CPF que vous allez mettre sur votre site, déjà, vous n'allez pas mettre de point de vue, vous allez mettre que de l'information officielle, objective. Elle est objective. Le problème, c'est que l'information objective est accessible pour tout le monde, mais la plupart du temps, elle est dans un niveau de généralité que tout le monde maîtrise. D'ailleurs, elle va être repiquée sur tous les sites en copier-coller, quasiment, vous ne savez plus l'origine. Deuxième chose, c'est qu'elle est très faiblement opérationnelle la plupart du temps et qu'elle ne correspond pas à la demande de la personne. Je vous donne un exemple. La personne vient, appelle la plateforme téléphonique en disant j'ai pensé à la VE, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le conseiller lui dit mais qu'est-ce que vous savez de la VE ? Le personne dit bah, il faut avoir une expérience. Et là, le conseiller commence à lui expliquer les 3 ans, le type de certification, etc. C'est pas sa question. C'est-à-dire qu'au fond, la personne, sa seule question, ça peut être est-ce qu'avoir une certification, ça me sert à avoir un boulot ? Est-ce que cette certification est facilement accessible pour moi ? Ça serait quoi la certification la plus facile d'accès ? Or, ces informations-là, par nature, ne sont pas objectivables, c'est-à-dire qu'elles vont renvoyer à une interprétation des informations, et juridiquement, on pourrait dire que c'est des informations de jurisprudence. C'est-à-dire que c'est des informations qui ne peuvent pas être mises à disposition sur un site parce que, d'une certaine façon, elles ne sont pas purement objectives. Ce qui veut dire que, au fond, quand on fait le tri, parce que vous avez beaucoup parlé de tri dans tous les ateliers, on a un vrai problème de c'est quoi les paniers. Et dès qu'on va opposer de la vraie, bonne, objective information et qu'on va éliminer les informations subjectives, c'est-à-dire les points de vue, on va éliminer 80% des informations du troisième plan, qui sont ce qu'on appelle les informations d'usage, qui sont essentiellement fournies par les usagers ou par les professionnels qui sont partie prenante du dispositif. Les jeunes l'ont très bien compris. Ils vont plutôt aller sur les réseaux sociaux pour savoir qui est au SCFA de machin, qui a fait la formation à truc, est-ce que c'est difficile, est-ce qu'il y a la Wi-Fi dans les chambres, etc. Donc ça veut dire qu'il va poser des questions d'usage qui, par nature, ne seront pas forcément sur les sites officiels. Donc cette distinction entre de la bonne information et de la mauvaise information, en fait, elle ne tient pas la route dans la question d'usage. Ce qui veut dire qu'au fond, les demandes de l'usager sont des demandes qu'on ne va pas trouver dans les informations officielles. Du coup, la question des points de vue devient centrale. Est-ce que tous les points de vue se valent ? Alors, vous voyez la question. Est-ce qu'un responsable de formation de l'AFPA, par exemple, qui forme des professionnels depuis 15 ans dans 7 secteurs professionnels, il a plus d'un point de vue avisé que quelqu'un qui a lu la fiche Wikipédia ou la fiche de l'AFPA ? Bah oui, ça veut dire qu'il y a des points de vue avisés. Dans tout le travail qu'on a fait sur la médiation de l'information, on a considéré que le professionnalisme du professionnel, c'était aider la personne à trouver les professionnels avisés. D'où l'idée d'ambassadeur que vous avez développée, mais qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux, par exemple. Ça veut dire que la fonction du professionnel va être de plus en plus de qualifier les informations, mais surtout en les clivant pas entre des informations officielles, objectives, et des informations subjectives. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de l'information d'usage. Et là, on va s'intéresser à la qualité de l'information. Je propose un petit modèle très simple, je ne veux pas m'y étendre parce que je n'ai pas le temps, mais il y a 4 critères qu'on va utiliser, par exemple. Le critère d'objectivité, parce qu'il nous est imposé par la loi. J'y vais pas plus loin, puisqu'on voit très bien qu'effectivement, tout le monde va mettre les mêmes informations objectives pour tout le monde. Prenez le CPF, tout le monde a les mêmes informations. Et puis on nous met plus ou moins les arrêtés en fonction des conventions collectives de l'un ou de l'autre. C'est plus ou moins épais, mais de toute façon, ça va. Alors vous avez vite vu qu'il y a des gens qui vont être éliminés par cette information-là, parce que justement son niveau soit de généralité, soit de complexité est trop important. Puis il y en a 3 qui nous intéressent beaucoup. C'est la question de la fiabilité. Et vous voyez, je ne parle pas de la véracité. Ça veut dire que la notion de fiabilité, sémantiquement, c'est pas rien. Ça veut dire que je peux y accorder du crédit. Et quels sont les facteurs qui puissent me permettent d'y accorder du crédit. Et c'est quelque chose qui est très important pour l'usager. C'est au fond, j'ai vu sur un forum que monsieur machin, il est devenu conseiller en mission locale parce que il dit que la meilleure solution, c'est faire une licence de sciences de l'éducation. Je le dis comme ça parce que je l'ai vu sur un site, sur un forum. Donc, ça devient la vérité. Ou il y a quelqu'un qui va le mettre en débat en disant qui l'a dit, à quelle époque. Ah ouais, merde, c'est 2004. Dans quel endroit, etc. Donc immédiatement, ce point de vue n'est pas avisé parce qu'il n'est pas généralisable. Par contre, on peut trouver sur des forums des points de vue avisés, fondés, et que la responsabilité du professionnel va bien être de faire une analyse partagée avec la personne de tous ces éléments-là, mais qui du coup nous amène à quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui est vraiment une analyse quasiment délibérative de l'information, avec quelque part avoir un modèle sur la question de la fiabilité. Et vous voyez qu'une information fiable, c'est-à-dire d'usage, n'est pas forcément une information sécurisée juridiquement. Toute la difficulté, c'est qu'on peut ne pas les mettre sur un site officiel. Par contre, elles seront sur des forums, sur des espaces collaboratifs, comme un point de vue. Et l'idée des points de vue, aujourd'hui, est centrale. La discussion que j'avais avec Nicolas à table, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez, je ne sais pas, vous entreprenez un voyage, je vais bientôt au Québec, je regarde sur un site que je ne citerai pas, pour savoir dans quel hôtel je vais à Montréal, par exemple. Il y a des hôtels qui sont notés 8,6 et puis il y a des hôtels qui sont notés 6,5. Je ne sais pas pourquoi, je vais plutôt aller vers ceux qui ont plus. Est-ce que c'est vrai ? Les sites sont bien. bidonner, on peut discuter à l'infini. N'empêche qu'en tant qu'usager, je vais accorder du crédit à cette information, dont je sais par ailleurs qu'elle n'est pas forcément vraie. Donc je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire qu'au fond, l'usager est préoccupé par la fiabilité, mais surtout, il est préoccupé par une question centrale, est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que c'est traduisible en action pour lui? Et aujourd'hui, une information académique sur le CPF, sur la VAE, sur le CIF, elle est faiblement opérationnelle. Ce qui veut dire, et là aussi je l'ai beaucoup entendu, et je trouve que le mot est fort, ça veut dire que la fonction du conseiller va être de plus en plus, non seulement une fonction de médiation, mais une fonction de traduction. Voire, sur les publics les plus en difficulté, quasiment une fonction d'interprète. Essayer de comprendre les règles du jeu pour que les gens puissent tout simplement les utiliser. D'ailleurs, je reviendrai sur cette question qui pour moi est centrale en termes d'équité. Le risque de fabriquer un droit, c'est que ce droit ne soit pas accessible à l'ensemble de la population. Je reviendrai sur les travaux de Seine par rapport à ça. Pour moi, c'est un enjeu de démocratie centrale. On fabrique sans cesse des droits en fabriquant une augmentation du non-recours au droit. Donc ça nous pose un problème très simple. C'est qu'une démocratie qui fabrique des droits, sa priorité, c'est pas de créer des droits. Dans l'histoire de la justice sociale, en disant tout simplement, on a créé du droit, donc les gens peuvent s'en servir. C'est mettre en place les conditions nécessaires pour que les gens l'utilisent. Or, si on ne rentre pas dans les questions d'immédiateté, tel que tu l'as vu, si on ne rentre pas dans les questions des usages, on va très vite éloigner les publics d'un service dont ils pourraient potentiellement avoir besoin, mais dont ils ne vont pas se servir. Je ne sais pas si vous voyez cette question-là, qui pour moi est tout à fait centrale. Alors, il me reste 5 minutes, c'est ça, 6 minutes ? Sur la question des usages, j'aime toujours parler de la sérendipité. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez vendre quelque chose aujourd'hui sur un site, quel qu'il soit, vous avez trois techniques de vente marketing qui sont très simples, hein, qu'on connaît par cœur. C'est la première chose, c'est la localisation géographique, vous voyez à quoi je pense. Hein. La deuxième chose, c'est permettre aux gens de trouver ce qu'ils cherchent. Et la troisième chose, la plus importante, leur permettre de trouver ce qu'ils ne cherchaient pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on va considérer que les stratégies de dispersion et de sérendipité, qui correspondent aux stratégies de requête, sont pas forcément des logiques chronologiques, mais sont plutôt des logiques erratiques, on voit bien que l'enjeu pour le professionnel, c'est concilier des stratégies rationnelles et en même temps faciliter la dispersion, pour qu'à un moment donné, on arrive à intégrer tout ça dans une logique de rationalisation. Et quand on travaille sur un site aujourd'hui, on a ces trois questions obsessionnelles. Est-ce qu'on permet de développer la connaissance au territoire, donc de développer la curiosité? Est-ce qu'on peut fournir de l'information de qualité aux personnes? On regarde ce qu'ils cherchent. Et en même temps, est-ce que cette information est suffisamment opérationnelle pour qu'ils puissent s'en servir? Et puis, vous l'avez compris, dans tout ce que je dis depuis quelques minutes, c'est l'enjeu de la recommandation, donc la question des ambassadeurs. La suspicion par rapport aux organisations publiques n'a jamais été aussi importante. Vous l'évoquiez ce matin, c'est-à-dire qu'on voit que même pour l'emploi, les gens vont par Google déjà dans un premier temps parce qu'ils ne rentrent pas par le site, parce qu'ils rentrent par un nom de métier, etc. Vous savez aujourd'hui que quasiment journellement, 58% des connexions numériques sur la planète, c'est 4, les GAFA, Google et tous les autres, etc., etc. Ça veut dire qu'au fond, on est dans une logique de centralisation par des moteurs de recherche hyper puissants, qui fait qu'à un moment donné, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, ça existe. Donc la question de la recommandation devient centrale, ça veut dire qu'il y a un discrédit sur des organisations finalement officielles, c'est-à-dire qu'on a une désaffiliation par rapport aux organisations officielles. On l'a dans toutes les stratégies de non-recours et une hypervalorisation des stratégies de recommandation. Avec tout le risque que vous voyez très bien, c'est qu'à partir du moment où on croit celui qui parle le plus fort et qu'on n'aille pas du tout voir celui dont on pense qu'il a raison parce qu'en fait il est discrédité a priori. Donc qui pour nos métiers devient un enjeu central et qui pose la question de la multiplicité des moyens que les personnes puissent finalement accéder à l'information. Et puis la question de la non-linéarité, je l'ai évoqué, je vais pas y revenir plus. Je voudrais surtout, et c'est un enjeu pour moi, avant-dernier point, sur la question de l'impact sur le rôle et la posture, ça veut dire qu'on a à s'interroger sur quelle est notre responsabilité, notre légitimité. Ce qui veut dire qu'on est de plus en plus metteur en scène en fait, du processus de conseil et d'information. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de bricolage entre retrouver la source, écouter la personne comme élément central, essayer d'identifier qui serait le plus prioritaire pour elle dans sa situation. On est plus facilitateur, on est plus passeur dans un genre de situation. Donc on a un rôle qui est plus complexe, puisqu'on est plus positionné sur la légitimité du savoir, mais plutôt dans notre capacité à permettre à la personne de faire des scénarios. Et je l'ai mis dans une planche un petit peu plus tard, je crois, Voilà, l'enjeu en termes de responsabilité, là je reprends le texte de l'OCDE sur, sur la question d'orientation que je trouve centrale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, on peut assez vite s'accorder que notre job, c'est aider les gens à faire des choix éclairés. Donc ça veut dire que notre responsabilité, c'est mettre en place tous les moyens pour qu'ils puissent avancer, eux, dans la décision qui est la leur, mais moi, avec la responsabilité de conseiller ou d'informateur, pour que je puisse mettre à leur disposition les ressources les plus pertinentes. Et le problème de la pertinence des ressources, et là tu l'as très bien dit Nicolas, mais vous l'avez dit aussi tous les trois, c'est-à-dire que c'est l'idée que la pertinence, tu ne peux pas la décider a priori si tu ne la testes pas en situation avec les personnes. Et ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire qu'au fond, je suis aujourd'hui subjugué de voir, alors quand tu travailles avec des collègues québécois, par exemple, première chose qui nous frappe, ils viennent dans notre assemblée, ils disent, ils sont où les personnes? Les personnes, c'est-à-dire les gens concernés par le service, quoi. Ils sont pas là. Et du coup, vous avez construit un service CEP, l'usager n'y était pas. Maintenant, on a fait le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, l'usager n'y était jamais. On lui a éventuellement demandé son avis à la fin. Et je voudrais juste faire une petite subtilité sémantique encore une fois. On va parler de la participation de l'usager. Je fais une distinction formelle très importante que les Québécois font beaucoup. C'est la différence entre participer et donner son avis sur quelque chose qui a été élaboré et contribuer à la construction du processus. Or, il me semble que ce qui est central, c'est notre capacité à générer de la contribution du côté de l'usager. Et là, on est sur quelque chose que tu as parfaitement identifié. C'est que nous sommes aujourd'hui tous dans une position de recevoir du service et de donner du service en tant que citoyen. Donc il y a quelque chose de la citoyenneté qui est assez interloquant aujourd'hui, et on le voit dans plein de champs de la vie, hein, aujourd'hui, avec la question d'espace collaboratif, avec la question de petite coopération locale en milieu rural, etc., où l'usager, finalement, est capable de contribuer au bien-être collectif, et en même temps, il peut aussi donner du conseil à des tiers. Donc la question des ambassadeurs est centrale, mais de mon point de vue, si on n'a pas une ingénierie de la médiation construite avec les contributions de l'usager, avec ses propres propositions, et là je trouve vraiment intéressant l'idée du lab, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, on est tous partie prenante du truc, et du coup, vous voyez bien que c'est la responsabilité, elle est à deux niveaux. C'est évidemment la qualité des sources. Mais vous avez compris dans ce que j'ai raconté avant, c'est que la qualité des sources ne garantit pas l'opérationnalité, l'appropriation des informations. Ce qui veut dire que ce qui va être central, c'est pas d'avoir des lieux où l'information est qualifiée, c'est avoir des lieux où les gens vont chercher de l'information, question de l'accès, mais surtout s'en servent dans leur propre stratégie. Ce qui fait une différence centrale et considérable entre les notions de délivrance, fourbir, et les questions d'appropriation. Or, notre responsabilité, elle est dans la qualité de la médiation qu'on met en place pour que les personnes puissent non seulement comprendre, intégrer, mais utiliser. Et en gros, il y a un service de qualité dans le champ de l'orientation, pas quand l'information est qualifiée, mais quand l'information est utilisée de manière adéquate dans une utilisation chaque fois singulière. Et pour moi, c'est la réponse de la personnalisation. C'est-à-dire comment on peut mettre en place l'ingénierie de la médiation dans laquelle on met en place toutes les conditions pour que l'individu puisse utiliser l'information qu'on met à sa disposition. Alors, valeur ajoutée pour l'utilisateur, et il me reste 2 minutes, je le fais très vite, c'est-à-dire... C'est un débat, par exemple, sur le CEP qu'on a eu tout le temps depuis le début, c'est-à-dire, au fond, et qu'on a aujourd'hui dans la modularisation du bilan. Le bilan a duré 24 heures, il y a des modules qui vont diminuer la durée. Et on a tout un débat, les gens s'arrachent les yeux, sur la question de la durée de la prestation. On voit bien que la question de la durée de la prestation, elle est réinterrogée dans le fait de qu'est-ce que le professionnel fait en face à face avec la personne, et qu'est-ce que la personne fait toute seule. Mais selon quelle modalité, et là aussi, Nicolas l'a évoqué, mais vous pourriez l'évoquer aussi, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée même de la synchrone est une idée centrale. On mène une expérience aujourd'hui avec du travail uniquement à distance. Et on s'interroge sur les processus d'engagement, et donc une différence de l'engagement entre la rencontre en face à face, dont on pense a priori que si les entretiens sont nombreux, que les rencontres sont fréquentes, le processus d'engagement, je ne parle pas de fidélisation, le processus d'engagement des personnes est supérieur. Et que si on les voit moins, que si le travail se fait qu'à distance et de manière asynchrone, l'engagement sera intérieur. Aujourd'hui, dans ce qu'on observe, s'il y a une vraie alliance de travail et s'il y a une vraie qualité du lien, le lien peut être totalement asynchrone, totalement à distance, avec quelque part la promesse de la rencontre qui peut-être n'aura pas lieu, mais simplement parce que les personnes savent qu'ils peuvent compter sur le professionnel, leur niveau d'engagement dans l'activité de conseil est impressionnant. Donc ce qui nous interroge sur la question du rôle du professionnel dans sa présence physique, ce qui veut dire qu'au fond on est persuadé qu'il ne peut y avoir de conseil de qualité si on n'est pas là. mais on peut être là de différentes façons. Et on, la qualité du lien aujourd'hui est un de nos objets de travail. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on peut mettre en place un lien de grande qualité sans forcément qu'on ait une multiplication des rencontres? Alors, vous avez compris, et c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se posera la question de la gradation et de la personnalisation du service en fonction des besoins, des difficultés des personnes qu'on peut rencontrer par rapport à tout ça. Et je terminerai, voilà, dans la minute qui me reste, pour dire qu'on a un vrai risque aujourd'hui sur ce que j'appelle une aristocratie des services. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aristocratie dans le sens où il y aurait des services qui seraient de moins de bonne qualité, à qui on attribuerait moins de valeur, sous prétexte que ce n'est pas des services totalement longs, intenses, avec une exposition de la personne en face à face. Il nous faut sortir de l'idée qu'il y a des services qui soient, simplement parce qu'ils sont en face à face, soient meilleurs que d'autres. Ça veut dire qu'on doit repenser le service dans sa pertinence en situation. C'est-à-dire ce qu'on appelle, en philosophie chinoise, rendre un service à propos. À propos, c'est pertinent au regard de ce qui est le plus adéquat dans la situation de la personne. Ce qui nous réinterroge sur un faisceau de modalités, sur un faisceau d'objets de travail, et en fait sur un faisceau de niveau de profondeur de service, qui nous amène à repenser la question du conseil, à la fois dans quelque chose qui est indiscutable, incontournable, c'est la qualité de la relation. Par contre, la forme de cette relation peut être tout à fait différente. Alors les jeunes nous surprennent sur la qualité des liens qu'ils peuvent avoir, justement sur les réseaux sociaux, sans s'être jamais rencontrés. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Et je termine sur une idée très forte et très importante pour moi, c'est qu'au fond, le risque de tout ça, c'est de confondre ce que Sen dit très bien, Sen, Amartya Sen, prix Nobel d'économie, qui travaillait sur les questions de pauvreté, qui dit « Le risque qu'on a, c'est de confondre la mise à disposition et l'effectivité. » Il dit « Il y a un droit formel, qui est la liberté formelle. Vous avez accès à un droit. Et puis, il y a le droit effectif. Et le droit effectif, c'est la capacité qu'a la personne de pouvoir utiliser ce droit dans sa propre situation. Et le risque que je pressens aujourd'hui, c'est qu'on multiplie les droits formels en ne s'intéressant pas suffisamment aux capacités qu'a la personne, capacités, on va dire Amartya Sen, et ressources que la personne pourrait utiliser pour s'en servir. Ce qui veut dire que l'enjeu, ce n'est pas tant sur le marketing des produits qu'on va délivrer, mais sur notre capacité à mettre en place les conditions pour que les gens puissent les utiliser. Et à mon avis, c'est dans ces conditions qu'on pourra contribuer à une société plus juste. Merci beaucoup.
Bon, alors, je conseille pour ceux qui rentrent en voiture, il faut qu'ils prennent un peu l'air avant de monter au volant. Parce que, j'imagine, hein, moi j'ai écouté André, donc dire-nous, on va essayer de faire notre métier académique, de savoir vérifier, vérifiable et tout ça, et on compte sur Thierry et toute son équipe pour faire ça. Donc déjà, on va restituer cette journée via notre lettre électronique, hein, hebdomadaire. On avait prévu des choses, non, mais en écoutant, on va peut-être bouger. C'est clair qu'on va rendre compte sur les SEI, on va rendre compte sur la table ronde. On avait prévu de rendre compte sur ce que dit André, parce que c'est du pudding au sens, c'est dedans, et dommage, parce qu'on ne peut pas jeter grand-chose là-dedans, et c'est difficile. Donc, bon, j'ai vu avec André, André est en train de quasiment finir un article sur ces questions-là. Donc, on m'a dit qu'on pouvait le mettre. Donc, dans la prochaine électronique, on le mettra où ça reprend, dans l'idée qu'il a donné là, même si là, il est illustré différemment. Donc, vraiment, ce que je veux dire, en t'écoutant d'ailleurs, je me disais, quand à la fin des années 90 est arrivée la question de quelle est la différence entre un savoir et un usage. Et une compétence, c'est du savoir en usage. En usage, je le mets en œuvre et en situation. Non, en écoutant là, je me disais, sur les questions d'orientation, c'est ça aussi. C'est en situation. La personne, elle est là, avec son avis, elle connaît. Et puis, du coup, comment je peux le mettre aussi. Ça, c'est la situation. Et l'usage, c'est comment je l'aide à les développer d'action dans sa propre vie à nouveau. Sans préempter sur elle, je ne suis pas en tutelle. En bref, en l'écoutant, à chaque fois, on se met à gamberger. Donc, on va restituer au maximum. Merci à toutes et à toutes, parce qu'il y a eu tout le temps d'atelier ce matin qui a été très riche. Moi, j'étais dans cet atelier sur les...